parole du jour avec le Père Willem.
Marcher avec Dieu et servir. Un bel exemple du passage de la religion primitive à la religion révélée est décrit dans ce magnifique livre de Michée, au chapitre 6, versets 6 à 8. Le texte est présenté comme étant le fruit de sa méditation personnelle. Il est merveilleux, ce Michée. Un homme sympathique, avec lequel j'aimerais bien prendre une tasse de thé, sous un tilleul. C'est un homme magnifique qui sait écouter. Et je suis sûr qu'il déposerait entre lui et moi le dessin d'une oreille pour montrer ce qui est important dans l'être humain, l'oreille qui est l'habitacle de l'accueil. Avec quoi me présenter devant le Seigneur, dit-il, m'incliner devant le Dieu de là-haut, me présenterai-je devant avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? Alors le Seigneur voudra-t-il des milliers de béliers, des quantités de torrents d'huile? Donnerai-je mon premier-né pour prix de ma révolte et l'enfant de ma chair pour mon propre péché? Et voici la réponse. On t'a fait savoir, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de toi. Rien d'autre que de respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu, marcher pas à pas avec ton Dieu chaque jour. Dans la religion révélée, il ne s'agit plus de chercher à impressionner Dieu par des sacrifices nombreux, variés, jusqu'à ceux de ses propres enfants, mais d'avancer humblement en compagnie de Dieu, dans un esprit de droiture, le sacrifice animal, voire humain. Chez les Incas, apanage des religions primitives, est transformé en implication de sa propre personne pour vivre et agir dans l'esprit de Dieu. Le peuple de l'Alliance mériterait le qualificatif de marcheur. Marcheur. Abraham s'est mis en route, puis Moïse, puis Michée. Et Jésus aussi a été un grand marcheur, puisqu'il a parcouru les routes de Palestine. Et c'est en marchant dans la vie que l'homme découvre Dieu. Marcher. Dans la religion révélée, Dieu n'est pas l'esclave de son désir. C'est l'inverse, puisque l'initiative part de lui. Oui. Notre réponse, libre et consentante, c'est de nous mettre à son service, de collaborer à la venue de son règne, en sachant que cet engagement nous apportera personnellement un bonheur certain. Dieu a peut-être appelé plusieurs personnes avant qu'Abraham réponde. La liberté est importante. Elle fait la différence entre l'esclave et le serviteur. En chrétienté, on peut douter de cette liberté peut-être, mais cette liberté est essentielle. Je crois que ce qui est primordial pour tout être humain, pour le chrétien en particulier, c'est de s'éduquer à la liberté dans les choix, dans la manière de vivre, la manière d'établir des relations avec les autres, de faire un monde de solidarité, de fraternité. La liberté est au cœur de notre humanité. Liberté, égalité, fraternité. Il ne suffit pas de l'écrire, il faut le vivre à travers ce que nous sommes et devenons. Pour faire comprendre la notion de service à ses disciples, et la notion de liberté à travers le service, Jésus a posé un geste surprenant le soir de son dernier repas avec eux. Lui, le maître, qui a l'autorité incontestée Lui, le meneur d'hommes, il prend le tablier du serviteur et lave les pieds de ses disciples, conformément, disons, à une tradition. Mais cela étonne. Cela étonne parce que c'est lui le maître. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, dit-il. Il le dit et il le fait. Alors Pierre, le plus spontané des disciples, résiste pour se laisser faire. Il a compris d'ailleurs finalement que ce geste sera un exemple à imiter. Sans doute que Jésus a pris le sens du service de ses parents, et spécialement de Marie qui s'est dit servante du Seigneur. Elle-même va vivre une inversion dans sa vie, passant de mère à disciple. Cela est visible dans le récit des noces de Cana, où elle arrive en tête et repart dans les pas de son fils, mêlée aux disciples. Vous voyez au chapitre 2 de l'évangile de Jean. Si tous ceux à qui on a confié quelques responsabilités remplissaient leurs fonctions dans un esprit de service, la face du monde serait changée. Je pense aux hommes politiques en particulier. L'esprit de service, est-ce qu'il est vraiment le moteur de leur action aujourd'hui au service du peuple? Qu'est-ce qui fait vivre un homme politique? Quel est l'engagement qu'il prend pour servir ou bien pour dominer, pour se faire réélire? Est-il les hommes? Cette charmante jeune femme, en accompagnant ses frères juifs hollandais en partance vers la déportation avant d'être elle-même déportée, a parfaitement saisi l'inversion des rôles. Alors que d'habitude, on prie Dieu pour qu'il nous aide, elle ose lui dire « Je vais t'aider, mon Dieu !» Je vais t'aider à ne pas t'éteindre en moi. Mais je ne puis rien garantir d'avance. Une chose cependant, m'apparaît de plus en plus claire. Ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider. Et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes. C'est tout ce qui nous est possible de sauver en cette époque. Et c'est aussi la seule chose qui compte. Un peu de toi en nous, mon Dieu, peut être pour nous ainsi contribuer à te mettre au jour, te mettre à ce jour dans les cœurs, ces cœurs martyrisés des autres. Oui, mon Dieu, tu sembles assez peu capable de modifier une situation finalement indissociable de cette vie. Je ne te demande pas compte, c'est à toi, au contraire, de nous appeler à rendre des comptes un jour. Et il m'apparaît de plus en plus clairement à chaque pulsation de mon cœur que tu ne peux pas nous aider, mais que c'est à nous de t'aider et de défendre jusqu'au bout la demeure qui t'abrite en nous. L'attitude du service est parfaitement résumée dans la prière des chrétiens de notre Père. Adopter cette prière, c'est opérer un travail incessant de retournement en nous, car nous sommes instinctivement habités par une conception païenne de la prière qui fatigue. Dieu, jusqu'à ce qu'il nous aide, que c'est fatigant. La prière chrétienne consiste au contraire à se rendre disponible pour que Dieu puisse, à travers nous et avec notre collaboration, irradier le monde de son amour et mener ainsi la création à son achèvement. Le Notre Père commence par des souhaits avec trois « que » qui correspondent à la flèche de Dieu vers nous. Nous souhaitons que se réalisent les projets de Dieu, être connus, que son amour s'étende sur la terre et que chacun de nous trouve sa place dans une harmonie globale. Ensuite s'expriment des demandes qui ne sont pas personnelles puisqu'elles elles utilisent un nous collectif et solidaire. Ces demandes répertorient le nécessaire pour pouvoir participer à la réalisation des desseins de Dieu, recevoir pour pouvoir ensuite donner, savoir pardonner pour contribuer à la venue du règne d'amour, ne pas se détourner ou faire jeu à part, expérimenter soi-même la libération pour porter un message de bonne nouvelle par tout son être. Ces demandes sont autres que celles de la religion primitive. Si Jésus dit que toute demande sera exaucée, il encourage cependant à ce que les demandes soient formulées par deux ou trois personnes réunies en son nom, ce qui focalisera les demandes sur les besoins de l'Église et non sur les lubies personnelles. Et il place comme objet suprême de la demande l'Esprit Saint qui permettra d'agir de concert avec lui. Cette prière façonne la vie du disciple. Elle l'unit à Jésus, dont c'était aussi la prière. Elle le met au service du projet de Dieu. Elle l'équipe pour la mission. C'est la prière du pauvre qui se met à la disposition de Dieu, de son Dieu, pour témoigner comme il peut dans sa pauvreté. Mais quelle merveille!